Si la résistance islamique dont nous faisons partie veut tuer des gens, ils doivent avoir un moteur, un intérêt pour les tuer. Et je vous le dis, nous n'avons aucun intérêt à tuer ces innocents.
RFI, grand reportage.
2 ans après le début d'un large mouvement de révolte, les Irakiens se rendent aux urnes ce 10 octobre pour des élections anticipées. Mais ce scrutin n'est pas vraiment celui qu'ils espéraient. Les assassinats de militants se sont multipliés. Les partis traditionnels, eux, se sont renforcés, mais surtout militarisés. Quant aux nouveaux mouvements politiques, issus des manifestations, peu semblent avoir les épaules pour rivaliser dans l'arène politique. Un changement par les urnes est-il possible en Irak, alors que la démocratie semble prise au piège dans un climat de terreur ? Irak, l'illusion d'une démocratie, c'est un grand reportage de Lucille Wasserman.
Une salle bondée, des drapeaux irakiens, des discours enflammés. Aucun doute, nous sommes bien à quelques jours des élections en Irak. Mais dans cette réunion de partis, pas question de mobiliser leurs sympathisants pour aller voter le 10 octobre prochain. Bien au contraire, explique Hassan Saran, l'un des membres du mouvement politique.
Nous ne participerons pas aux élections et nous n'approuvons pas leur tenue. Pour nous, c'est une pièce de théâtre parmi d'autres.
Cheveux peignés en arrière, barbe noire, costume apprêté ou figure une épinglette de son parti, cet Irakien d'une quarantaine d'années semble à l'aise dans l'habit du politique. Et pourtant, il y a quelques mois, il n'était encore qu'avocat. Après avoir manifesté en 2019 et 2020 aux côtés de centaines de milliers d'autres Irakiens, Hassan a rejoint l'audacieuse aventure lancée par plusieurs manifestants, former un parti politique d'opposition, Al-Bayt al-Watani. Mais alors, pourquoi refuser de participer à ces élections ?
Nous ne participerons à une élection que si elle inclut également les revendications des manifestations d'octobre. Nous ne voulions pas seulement des élections anticipées, nous voulions également qu'elles se déroulent selon des termes juridiques clairs, notamment sur le contrôle des armes par l'État, ce qui n'existe toujours pas en Irak. Presque tous les membres de notre parti, y compris moi-même, avons été soumis à des menaces ou des tentatives d'assassinat.
Mais le combat d'opposition ne passe pas seulement par les urnes, selon ses militants. Devant des sympathisants installés sur des sièges matelassés d'un velours rouge vif, l'un des membres du parti se hisse sur l'estrade et rappelle les piliers du mouvement.
Nous travaillons à la construction d'un pays, d'un État capable de travailler en pleine souveraineté et de légalité pour que le peuple prenne ses droits et que ses droits soient protégés.
Ces grandes lignes ne sont pas anodines. Elles ont été scandées pendant des mois par les manifestants anti-pouvoir fin 2019 et début 2020. Lorsqu'ils sont descendus dans les rues pour demander de meilleures conditions de vie, une répression particulièrement meurtrière s'est abattue sur eux. Les protestataires ont alors revu leurs revendications à la hausse et demandé le départ de toute la classe politique jugée corrompue et incompétente. Dans la révolte, des centaines d'Irakiens sont tués. La grande majorité des sympathisants du mouvement a participé à ces manifestations et se souvient de cette violence. Certains ont même perdu des proches, comme Nour, la quarantaine, un hijab noir autour de la tête. Cette mère de famille entourée de ses 2 adolescentes ne croit pas à la possibilité d'un changement avec ces élections.
Mon fils est mort en octobre 2019. Nous voulons changer ce pays pour une situation meilleure et on veut obtenir réparation pour nos martyrs. Mais j'ai cherché et aucune des personnes qui se présentent ne mérite ma voix aux prochaines élections.
En 2 ans, le mouvement de contestation s'est toutefois fragmenté. Nombreux sont ceux qui, comme Al-Bayt al-Watani, appellent au boycott. Mais d'autres pensent qu'il est temps de participer au processus électoral pour tenter de renouveler cette classe politique si critiquée. Lahi Bijel, analyste de la politique irakienne pour International Crisis Group.
Naturellement, dans plusieurs provinces du pays, des partis politiques ont été formés autour des personnalités de premier plan engagées dans le mouvement de contestation. Certains manifestants ont toutefois réalisé qu'en tant que nouveaux partis émergents, il serait très difficile de rivaliser avec les partis établis ou d'avoir accès à des financements importants. Pour certains d'entre eux, ils ont donc identifié les partis les plus modérés, des partis qui existaient déjà dans l'establishment politique. Et ils ont essayé de tenter l'aventure avec eux et de les influencer au lieu de suivre leur propre chemin avec une organisation politique complètement nouvelle.
Quelle que soit la stratégie adoptée, ces nouveaux politiciens peuvent-ils vraiment peser dans le débat politique aujourd'hui ? Cet analyste n'est pas très optimiste.
Je ne pense pas vraiment qu'ils ont des candidats capables de rivaliser avec ceux des partis politiques établis. D'abord parce qu'ils sont pour la plupart inconnus et qu'ils n'ont aucune expérience en politique. Et puis dans l'ensemble, une grande violence s'est abattue contre ces partis et cela a eu un impact sur la volonté ou le degré de volonté de participer aux élections.
Dans les mois qui ont suivi les manifestations et jusqu'à aujourd'hui, près d'une centaine de militants ont été ciblés par des hommes armés. Une trentaine sont morts, assassinés. Nous prenons la direction de Kout dans le sud de l'Irak pour rencontrer Qassem El-Tamimi, un militant qui a survécu à une tentative d'assassinat le 8 août dernier. Première halte, au commissariat de la ville pour rencontrer le commandant en chef chargé de l'affaire, laquelle reste pour l'heure non élucidée. Installé derrière son vaste bureau, un béret noir posé sur la tête, ce policier ne semble pas très à l'aise.
Cela s'est produit il y a un mois ou plus, et il y a encore des points d'interrogation concernant la véritable accusation, voire, disons, de l'authenticité des accusations, ou de qui est vraiment derrière.
Plusieurs rapports de la police criminelle font pourtant état d'une tentative d'assassinat en bande organisée et rappellent que ce n'est pas la première fois que ce militant est visé. À deux reprises dans le passé, des grenades assourdissantes ont été posées devant son domicile. Il est 8h du matin et nous devons prendre la route pour aller interviewer Qassem El-Tamimi. Mais soudain, l'interview prend une autre tournure. Le commandant en chef refuse que nous allions rencontrer le militant.
Arrêtez d'enregistrer maintenant. Arrêtez d'enregistrer, j'ai dit.
Chargée d'enquêter sur ces crimes, la police est souvent accusée de faire régner un climat d'impunité en Irak. Parmi les plus de 30 cas d'assassinat dans le pays, très peu d'assaillants ont été retrouvés à ce jour. Après une heure de négociations et de nombreux coups de fil au ministère de l'Intérieur à Bagdad, nous obtenons finalement l'autorisation de rencontrer Qassem El-Tamimi. Il nous accueille chez lui, dans une maison au mobilier très élémentaire. Son large sourire contraste avec la fatigue qui se dessine sur son visage chétif.
Le 8 août 2021, je suis rentré d'une manifestation qui était organisée dans la province. C'est à ce moment-là qu'un groupe armé m'a attaqué, pas très loin de chez moi. Il y avait une voiture devant moi et une moto derrière. Ils m'ont tiré dessus et ils ont bien failli me tuer. Je garde encore cette blessure, ici.
Il soulève son t-shirt et fait apparaître trois cicatrices ovales à quelques centimètres les unes des autres. Les stigmates de trois tirs de balles logés dans sa chair.
Je pense que les forces de sécurité savent très bien qui m'a visé et qu'il y a un accord avec les assaillants pour que cela ne se sache pas. Par exemple, on ne m'a jamais transmis les vidéos des caméras de surveillance où ça s'est passé. Comment est-ce que c'est possible ? À l'endroit où j'étais visé, il y a toujours un checkpoint de la police, 24 heures sur 24. Ce jour-là, il n'y avait personne. Je ne dis pas que les forces de sécurité sont derrière l'attaque, mais elles font face à des pressions et des intimidations.
Qui, alors, en veut à ce point aux militants du pays. Selon les Irakiens, seules les forces de mobilisation populaire ont suffisamment d'influence pour agir en toute impunité en Irak. Ces anciennes milices ont gagné en notoriété lors des batailles contre le groupe État islamique. Elles ont alors converti leurs gains militaires en gains politiques à la sortie de la guerre. Aujourd'hui, elles sont officiellement intégrées à l'appareil sécuritaire irakien, mais une partie échappe toujours au contrôle de l'État. Très critiqués lors de la révolte en 2019, les leaders de ces groupes armés veulent faire taire les voix dissidentes, selon Qassem.
Elles utilisent l'Irak comme un terrain de jeu pour régler leurs comptes et pour faire passer leurs intérêts avant les intérêts du peuple et la sécurité. Aujourd'hui, je ne peux compter que sur moi-même et sur l'aide de ma tribu qui se relaie pour assurer ma sécurité. S'il n'y a pas de changement de gouvernement prochainement, il n'y aura pas de solution, selon moi. Et nous continuerons à souffrir, moi et les autres. On n'en finira jamais avec ces milices abjectes.
Retour à Bagdad où un porte-parole de ces groupes paramilitaires pointés du doigt a accepté de nous recevoir en plein centre de la capitale. Le nom de sa brigade, Kataeb Sayed al-Shuhada, une faction armée connue pour être proche de l'Iran. En uniforme militaire, un turban blanc sur la tête, Kadem el-Fartouzi est installé sur une chaise de jardin à l'extérieur de son bureau. Nous lui demandons de réagir aux accusations des militants.
Si la résistance islamique dont nous faisons partie veut tuer des gens, ils doivent avoir un moteur, un intérêt pour les tuer. Et je vous le dis, nous n'avons aucun intérêt à tuer ces innocents.
Mais ce porte-parole ne dément pas que son groupe, comme d'autres, échappe au contrôle de l'État irakien et suit des motivations qui leur sont propres. Tous leurs agissements sont dictés par un seul et même objectif, dit-il, le départ des États-Unis.
Notre mouvement est un projet de résistance. Nous faisons partie de ceux qui croient qu'il y a des troupes d'occupation en Irak et qu'elles sont néfastes pour le peuple irakien. Ces troupes ont commis des massacres contre le peuple irakien et donc la résistance continuera de se battre contre eux.
Certains militants du pays ont été accusés par ces groupes d'être proches des États-Unis. En 2020, une féministe de Bassora dans le sud de l'Irak a été assassinée à bout portant par deux individus à moto. Peu de temps après sa mort, une photo d'elle et du consul américain, prise en 2018 à l'occasion d'une rencontre avec d'autres irakiennes, circulait sur les pages Telegram de certaines milices. Mais ce porte-parole le répète, ces groupes armés n'ont rien à voir avec ces assassinats. Derrière lui, les visages du général iranien Qassem Soleimani et du commandant irakien Abu Mahdi al-Mohandes dominent une vaste pancarte rouge aux côtés de leurs hommes de main. Tous ont été tués dans une frappe américaine à Bagdad en janvier 2020. Plus que jamais depuis ce jour, ces groupes appellent à la vengeance et au départ de la coalition internationale, toujours engagée dans le pays pour combattre Daesh, sous invitation du gouvernement irakien. Tous les moyens sont bons, dit-il, y compris l'engagement aux politiques.
Nous soutenons des partis politiques pour représenter nos objectifs, notre pensée et nos ambitions en Irak. Le travail en politique ne devrait pas être inférieur à notre travail militaire pour atteindre nos buts. La résistance contre les forces étrangères, ce n'est pas une histoire de gang armée, c'est une bataille djihadiste qui vise à expulser ces forces occupantes. Et il n'y a rien qui dit qu'on ne peut pas entrer en politique. Aujourd'hui, nous sommes donc représentés par le Fatah. Il y a par exemple Asaïb, Bader, et nous sommes le parti Sénat.
Dans le droit irakien, l'article 8 de la loi sur les partis politiques stipule qu'aucun parti ne peut être ou travailler avec une organisation armée ou paramilitaire. Parler de politique ou soutenir des partis en tant que porte-parole d'une brigade armée reconnue par l'État est également interdit, mais ce représentant ne semble pas s'en soucier. Et c'est bien cela que les militants et les nouveaux candidats leur reprochent. L'utilisation de leur pouvoir pour influer sur le processus électoral en dehors du cadre de la loi. Au moins de deux manières, explique Saïf Ali, un journaliste irakien.
Lorsque vous avez des factions armées, vous avez beaucoup d'hommes à vos ordres et ces hommes vous serviront dans n'importe quoi, y compris en votant pour celui pour lequel vous voulez qu'ils votent. Donc, si vous avez en plus une entité politique qui vous représente, cela garantit une victoire facile aux élections. Autre point, les candidats indépendants ne pourront pas s'opposer à ces factions armées ou aux candidats que ces factions soutiennent, car ils pourraient utiliser leurs armes contre eux et ça devient une question de vie ou de mort.
Lors des dernières élections en 2018, ces factions politiques et leurs groupes armés affiliés avaient déjà remporté un grand nombre de sièges au Parlement et formé le deuxième plus grand bloc politique. Qu'en sera-t-il 4 ans plus tard, à l'heure où, malgré les critiques, ces factions ont renforcé leur emprise sur toutes les sphères du pouvoir et où leurs groupes politiques se sont multipliés? L'un d'entre eux, le parti Hukuk, représentera pour la première fois cette année l'un des groupes paramilitaires les plus puissants du pays, les brigades du Hezbollah. L'un de ses candidats, Hassan El-Tamimi, nous invite dans un quartier pauvre au nord de la capitale, déjà acquis au mouvement. Il distribue des paniers de nourriture à des familles devant une maison du parti, au milieu d'une rue poussiéreuse jonchée d'ordures.
Merci, merci. Que Dieu te bénisse.
Nous sommes candidats aux élections. Nous allons travailler sur vos revendications. Ce sont des revendications nationales.
Autour d'Hassan El-Tamimi, d'autres membres du parti observent la scène. Habillés de noir, des lunettes opaques devant les yeux, ils se font discrets et ne parlent pas aux femmes qui leur font face. Hassan revient sur les priorités du mouvement.
Disons qu'il y a des promesses importantes et des promesses primordiales. Pour nous, le plus important, c'est d'évacuer les forces militaires étrangères actuellement en Irak. C'est ça la priorité. Car la présence de ces troupes est une présence oppressante, contraire à la volonté et à la souveraineté de l'Irak.
Un agenda politique qui coïncide avec celui des brigades du Hezbollah et des autres groupes proches de l'Iran. Les liens entre la branche politique et armée sont difficilement dissimulables, car le chef de ce nouveau parti n'est autre que Hussein Mohannes, connu sous le nom d'Abou Ali al-Askari, l'un des énigmatiques porte-parole des brigades du Hezbollah. Mais contrairement à notre précédent interlocuteur, Hassan El-Tamimi joue la prudence. En tant que parti politique, il est formellement interdit d'avoir des liens avec un groupe armé. Qu'en est-il alors de Hussein Mohannes et de tous les membres de votre parti ?
Hussein Mohannes faisait effectivement partie du programme politique des Kateb Hezbollah, mais il a démissionné il y a 7-8 mois. La démission est réelle et il est désormais à la tête de Hukuk, c'est tout.
Très vite, pourtant, le candidat retrouve un langage guerrier, peu conventionnel.
Nos frères qui font partie de la résistance irakienne contre les forces étrangères ou des Hajd ne font qu'un avec nous et œuvrent pour avoir un Irak libre, fort d'une souveraineté retrouvée. Nous sommes prêts à mourir pour cela, pour que l'Irak retrouve une souveraineté complète. Il est impossible de se reposer. Les troupes d'occupation doivent quitter l'Irak.
Menaces, intimidations, blocs politiques surpuissants soutenus par des groupes armés, peut-on vraiment organiser des élections dans un contexte si menaçant ? Un processus démocratique peut-il avoir lieu dans un environnement si dangereux où les voix d'opposition sont visées ? Nous sommes allés poser ces questions à l'adjointe de la représentante spéciale de l'ONU en Irak. L'organisation est actuellement engagée sous la demande du gouvernement irakien pour assister et conseiller les autorités lors du déroulement des élections. Elle nous reçoit dans la zone verte, un quartier ultra sécurisé.
Le problème en Irak, ce sont toutes ces armes qui ne sont pas sous contrôle de l'État, toutes ces milices qui opèrent sur le territoire. C'est un énorme problème qu'il faut traiter. Je le dis toujours, la démocratie n'est pas seulement une question d'élection. Vous ne pouvez pas avoir de démocratie sans élection, mais vous pouvez avoir des élections sans démocratie. Cependant, je crois que cette élection peut être tenue et qu'il est important de le voir comme un processus. Nous ne pouvons pas passer d'élections très mauvaises, comme on en a vu en 2018, à des élections parfaites. Mais on peut essayer d'obtenir de meilleures élections avec un meilleur taux de participation. Si c'est le cas, alors nous pourrons dire que c'est un bon processus et que l'Irak est sur la bonne voie.
L'équipe de l'ONU déployée pour les élections sera 5 fois plus importante cette année qu'en 2018, sous demande des autorités irakiennes. La preuve, selon cette représentante, que l'Irak veut améliorer son processus électoral et que les partis politiques tiennent à organiser un scrutin crédible et surtout légitime.
On sait qu'il existe des personnes qui veulent pirater, par exemple, les équipements. Pour cela, on a encouragé le gouvernement à travailler avec une entreprise de conseil indépendant qui va s'associer avec eux pendant toute la procédure. Il y a aussi des intimidations et des menaces contre des candidats ou des électeurs. Et tout cela menace l'élection, oui. Mais nous avons appris de 2018 et nous sommes venus aujourd'hui avec des solutions pour empêcher que cela ne se répète. Mais il faut qu'on soit réaliste. Ceux qui veulent enfreindre le système peuvent se montrer très créatifs. Ce ne sera pas parfait, mais nous pouvons voir des progrès et espérer que le processus continue.
Un message d'espoir dans un pays où beaucoup d'Irakiens ne trouvent plus de sens à ce mot. Plus de 15 ans maintenant que le pays se prête au jeu des élections et autant d'années au moins où les habitants ont progressivement quitté le chemin des urnes. Au risque de faire mourir à petit feu cette démocratie ou l'idée qu'elle existe en Irak.
Irak, l'illusion d'une démocratie. Un grand reportage de Lucille Wasserman, réalisation Pauline Leduc.